France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un chef qui fait partie des visages les plus reconnaissables de la cuisine française. Crâne rasé, barbe imposante, regard qui peut faire trembler une brigade entière. Mais derrière cette image de chef dur se cache surtout un immense amoureux de la cuisine et de la transmission. Philippe Etchebest est meilleur ouvrier de France, doublement étoilé au guide Michelin, à la tête de plusieurs établissements et d'une brigade de plus de 100 collaborateurs. Mais c'est aussi un personnage devenu incontournable de la télévision. Depuis plus de 10 ans, il accompagne des restaurateurs en difficulté dans Cauchemar en cuisine et il fait partie du jury de Top Chef qui revient ce mercredi sur M6 pour une nouvelle saison. Alors ce soir, on va discuter de cuisine bien sûr, mais aussi de quelques-unes de ses autres obsessions. Au hasard, la musique ou la boxe par exemple. Philippe Etchebest est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Oubliez tout ce que vous connaissez ou tout ce que vous croyez savoir sur Top Chef. Cette saison ne ressemblera à aucune autre. Face à vous, nos merveilleux membres du jury. Paul Perret, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Stéphanie Lekelec et Glenn Vielle.
Il y a 4 minutes, j'étais dans le bus. Là, maintenant, je suis devant les chefs de brigade. T'arrives là devant, tu te dis, ah, ça y est, c'est parti, on est dedans. Le peloton d'exécution.
Les chefs vous observent avec attention, car ils n'ont qu'une hâte. C'est découvrir votre talent.
Et donc là, on a un extrait donc même du premier épisode qui sera diffusé ce soir. Bonsoir Philippe Etchebest.
Bonsoir.
Merci d'être là.
Eh bien, avec plaisir.
Alors, je tiens à préciser quand même aux personnes qui nous écoutent régulièrement qu'aujourd'hui, on va se vouvoyer.
Ah oui.
Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude souvent de tutoyer les invités. Donc voilà, je tiens à préciser, c'est que c'était aussi...
Préciser.
Non mais je précise.
Vous avez pu surprendre, effectivement,
exactement.
Vos éditeurs.
Mais c'est important parce que c'était aussi une volonté de votre part. Alors, vous êtes justement juré de Top Chef depuis 2015. Qu'est-ce que... Je crois, hein, ça, 11
ans. C'est ça, ouais.
Qu'est-ce que l'émission a changé dans votre vie?
Bah, ce qui a changé, je sais pas si l'émission a changé quelque chose dans ma vie. Ça a commencé avec Cauchemar en cuisine, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, je précise, ça fait presque 15 ans maintenant, puisque la première diffusion était en 2011.
Ouais, exactement.
Il y a des choses qui ont changé, et bien évidemment, quand on est exposé à la télévision depuis Cauchemar en cuisine. Après, sur ce qui est de Top Chef, j'ai envie de dire, ce qui aurait pu changer, en tout cas à travers ma vision de la cuisine, c'est l'approche qu'ont les jeunes aujourd'hui, justement, et qu'on cette vision sur la cuisine, parce qu'ils ont des outils que nous n'avions pas, nous, avant, bon, Internet, les réseaux sociaux, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent se nourrir avec ces outils de tout ce qui se passe à travers le monde.
Ouais, d'information.
D'information et tout ça. Donc, c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus vite et ils sont beaucoup plus affûtés, on va dire, que nous l'étions, nous, à l'époque.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un niveau technique chez les jeunes cuisiniers plus important que le vôtre à l'époque, au même âge, qu'ils sont peut-être plus éduqués parce qu'ils ont accès à plus de choses?
Alors, pas forcément sur la technique, en tout cas sur les idées, ça c'est vrai, parce qu'il y a sur des associations, sur des produits aussi certainement. Sur la technique pure, j'ai envie de dire, c'est encore autre chose. Et même, j'ai envie de dire que peut-être parfois, ils ont pas souvent ces codes au niveau de la technique. Mais c'est bien parce que nous, on est là aussi un peu pour ça, justement leur transmettre aussi notre savoir-faire à travers plein de choses, mais la technique en fait partie aussi.
Alors en 16 ans, l'émission s'est devenue une véritable institution, hein, Top Chef évidemment. Je crois qu'il y a plus de 31 anciens candidats qui sont aujourd'hui étoilés. Alors évidemment, c'est un divertissement, Top Chef, même des personnes qui cuisinent pas forcément regardent ce divertissement, mais est-ce que c'est aussi devenu une école de cuisine quelque part? Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Alors en tout cas, à travers les candidats, c'est vrai que c'est un accélérateur de formation. En tout cas, quand on les avait en brigade à l'époque, c'est vrai qu'ils apprenaient beaucoup. Hein, c'était une formation vraiment accélérée. Ils viennent un peu aussi souvent, les candidats, pour se chercher, pour trouver un peu leur cuisine ou leur personnalité. Oui. Et ils étaient unanimes, hein, tous. Hein, après les émissions, chaque saison, ils disaient qu'ils avaient énormément appris. Donc, tant mieux, c'est bien. Ça, c'est une émission utile, on va dire.
Ouais. Et cette histoire de transmission, parce que vous avez déjà utilisé ce mot-là, et quand on s'intéresse un peu à vous, votre parcours, on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui est important. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu au cœur chez vous de votre travail, même de votre manière de concevoir la cuisine et ce que vous faites ?
Aujourd'hui, oui. Plus que ça ne l'a été, en tout cas, j'arrive à une période de ma vie où, comme tout cuisinier, on passe des phases. Donc, il y a l'apprentissage, il y a le passage de chef, il y a l'affirmation de sa cuisine aussi. Ouais. Il y a plein de choses. Et quand on arrive à un stade de sa vie et de son expérience professionnelle, en tout cas, moi, en tant que meilleur ouvrier de France, mon devoir, c'est de transmettre tout ce que j'ai appris et tout ce que je sais aux jeunes. Je le fais dans mes établissements, j'ai beaucoup d'apprentis. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir transmettre.
Est-ce qu'on apprend encore ?
Bien sûr.
À votre niveau ?
Tous les jours. Mais bien sûr.
Ouais.
Mais tous les jours, on apprend. On apprend justement, même à travers Top Chef, c'est vrai qu'on apprend des choses à travers ces jeunes candidats qui sortent des trucs. On se dit, putain, j'ai pas pensé. j'aurais bien voulu penser à leur place. Mais c'est ça aussi, la cuisine, c'est un échange, c'est un partage. Et on se nourrit, en fait, de toutes ces expériences, de tout ce qu'on peut voir. Là, je reviens de Thaïlande, où j'ai tourné un chef au bout du monde. J'ai appris à faire un curry avec une mama. Mais exceptionnel. Donc, il me tarde déjà de le reproduire, de le faire au mortier, comme je l'ai fait avec elle.
Ouais.
Mais c'était une recette incroyable.
Si je reviens juste sur donc, cette nouvelle saison de Top Chef, qui est une saison censée aussi être un peu plus surprenante, déroutante.
Oui.
Top Chef renverse la table,
oui,
avec des nouveautés, des tournages hors studio, etc.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une volonté aussi, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes impliqué sur la création du format, mais justement de renverser le format, de proposer autre chose et de renouveler l'émission aussi?
C'est super important de renouveler, je trouve. L'immobilisme est un renoncement, puis à un moment donné, on se fait chier, quoi. C'est ce qui fait que on prend toujours autant de plaisir à faire Top Chef, c'est parce qu'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des surprises. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour le coup, ils sont partis dans une direction complètement à l'opposé de ce qui se faisait avant, puisqu'on était quand même essentiellement, en grande partie en studio, en tout cas, il y avait des déplacements à l'extérieur,
arrivait,
mais beaucoup moins de ça. Mais là, c'était radical. À la radicale, allez, on y va, on déménage tout, on transporte tout, et on sort un peu de notre zone de confort, c'est un petit peu ça. Parce qu'il faut savoir que les équipes techniques ont fait un travail exceptionnel, parce que déplacer tout ce matos, l'installer, le recharger dans les camions pour repartir dans notre région, franchement, c'était une prouesse technique incroyable pour le confort des candidats, et le nôtre aussi, et franchement, je leur dis bravo et chapeau à tous, parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel.
Après, on reviendra aussi un petit peu, bien sûr, sur votre parcours, mais aujourd'hui, vous êtes bien sûr un cuisinier, vous avez plusieurs établissements, mais aussi un homme de télévision, en fait.
Oui, bien
forcément.
Sûr, je ne peux pas le nier.
est-ce que ça, c'est quelque chose, donc avec tout ce qui va avec, bien sûr, hein, quand on parlait de Top Chef qui a changé votre vie, j'imagine aussi qu'en termes d'autorité, évidemment, qu'il y a eu un avant-après, et même de cauchemar en cuisine au préalable, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Moi, j'ai l'impression, parce qu'il y a aussi une chaîne YouTube que vous avez créée, qui marche très bien par ailleurs.
Ouais, ouais.
Donc, ça fait aussi partie de votre vie maintenant. C'est vrai que je disais homme de télé, mais je pourrais dire homme de divertissement.
Mais j'aurais pas pensé. Hein. Ça serait jamais venu de moi. Je vous dis franchement, la télé est arrivée comme ça, vraiment par hasard. Bon, il se trouve qu'effectivement, ça fait maintenant 15 ans que je fais ça. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est une parenthèse qui s'est ouverte. Elle se refermera un jour ou l'autre. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je n'en fais pas une condition ou une obsession. Vous voyez, pour moi, ce n'est pas une finalité en soi. Mon métier, c'est la cuisine. Et je terminerai de toute façon ma carrière avec ça, en étant cuisinier. Et puis après, pour ce qui est effectivement les réseaux, YouTube, c'est Charles, mon beau-fils, qui a l'initiative de ce projet. Franchement, comme il en a parlé...
Charles.
Oui, super bien vu, parce que 2 millions d'abonnés, les recettes, ça marche super bien. Le bouquin Cuisiner bien accompagné cartonne.
Ouais.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je le fais avec beaucoup de plaisir à chaque fois, en sachant que, une fois de plus, c'est une manière de transmettre une façon de cuisiner de manière beaucoup plus simple à des gens qui, tous les jours, ont besoin aussi de cuisiner.
Il y a aussi cette histoire de, je le disais un petit peu en introduction, l'image que vous pouvez avoir, alors, parfois d'un chef dur, notamment sur Cauchemar en cuisine bien sûr, et en même temps, j'ai le sentiment que ça ne vous a pas du tout empêché, au contraire, de rentrer dans la vie des Français, d'être apprécié, les programmes fonctionnent. Est-ce que ça aussi, ça a été une question, moi, quand vous êtes montré, j'ai l'impression que moi, vous n'êtes pas vraiment posé de questions sur le rôle que vous avez joué.
Vous avez compris.
C'est
le problème, peut-être, parfois.
Bah, je ne sais pas si c'est un problème.
Souvent, dit ma femme, je ne me pose pas de questions.
Ouais.
Je ne pense pas aux conséquences que ça peut avoir quand je dis des choses ou comme ça. Je m'en fous complètement. Je pense pas dire trop de conneries, en vrai. Alors, bien évidemment, on a toujours des détracteurs hein, quand on prend position, quand on dit des choses.
Évidemment.
Mais j'assume parfaitement ce que je dis. Je le dis de manière simple, de manière sincère, et c'est peut-être ça aussi qui plaît, finalement. Et j'ai jamais calculé, j'ai jamais essayé, en tout cas, de plaire.
Est-ce que la télé a déjà essayé de vous changer, de vous dire, là, c'est un peu trop dur, là, c'est pas le bon ton. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou jamais ?
Non. Okay. Non, et c'était aussi la condition, quand j'ai accepté de faire Cauchemar en cuisine, c'était surtout de ne pas jouer un rôle et de raconter la vérité. C'était le seul moyen pour moi de pouvoir faire ça, et je pense que si ça dure, c'est aussi un peu cause de ça. Donc je continuerai à le faire, et puis assumer, une fois de plus, ce que je dis. Ne plaise ou ne déplaise à certains, c'est pas grave.
Bon, on est avec Philippe Etchebest, avec vous jusque 23h pour la nouvelle saison de Top Chef. On va parler de plein de choses, notamment de musique un peu après. Je propose qu'on écoute un morceau tout de suite d'un rappeur québécois.
Ah !
Ouais, qui s'appelle Loud. Le morceau s'appelle Sans Retenue, j'adore ce morceau. On écoute ça, puis on parle après de vous et de votre rapport à la musique, si ça vous va. Très bien, on écoute Loud tout de suite.
Mud sport vole au-dessus des nids de poules. Top down like I freed the nipple. Ces rappeurs sont mes fils, c'est des nipples. S'ils ont la vision, c'est parce qu'ils sont sur mon épaule. Bright lights, ça a l'air d'être du CGI. Mais les gars font du vrai dos, pas du CDS. On mettra pas des freebies dans le frigidaire. Donc le prix d'aujourd'hui, c'est pas le prix d'hier. Few stacks sous l'oreille, New Ralph, pas l'oreille, let's get. J'ai mes factures payées, j'ai la coiffure peignée. Elle a les good looks et les good looks. Nouvelle définition de l'être cher. Lifestyle qui l'a corrompu. Elle dit qu'elle aime pas les rappers, ça tombe bien, moi non plus. Je retiens mon souffle s'il y a de la jalousie dans l'air. Je retiens les noms s'il y a des faux parmi les frères. Je prends soin des miens, pareil que je retienne ma mère. Mais pour le reste, sans retenue. Sans retenue. Sans retenue. Sans retenue. Sans retenue quand on flex, fuck un humble brag. Sans retenue quand ton ex m'en un autographe. Sans retenue quand on retire à for handle cash. Couple racks pour aider lui, ça c'est des couple racks. Straight out of Copenhague. Sans retenue quand on cup, we just popping tags. Faut traverser la planète pour voir ses shopping bags. Tous mes copycats devront trouver leur propre swag. Nuage de laine en mon americano. J'suis dans la Chevy Tahoe, j'réfléchis à voix haute. Est-ce que j'me paye le soleil pour la nouvelle année? Pour toutes ces années où j'rêvais de voir un silver lining. Quand j'avais 100 rêves mais j'étais sans revenu. J'pouvais même pas get un job ou même une entrevue. Maintenant j'l'ai fait payer pour le privilège. Le prix d'aujourd'hui c'est pas le prix d'hier. C'est sans retenue. Few stacks sous l'oreille, New Ralph, pas l'oreille, let's get. J'ai mes factures payées, j'ai la coiffure peignée, let's get. Elle a les good looks et les good looks. Nouvelle définition de l'être cher. Lifestyle qui l'a corrompu. Elle dit qu'elle aime pas les rappers, ça tombe bien, moi non plus. Je retiens mon souffle s'il y a de la jalousie dans l'air.
Je sais c'est quoi ta mélodie, c'est la jalousie.
Je retiens les noms s'il y a des faux parmi les frères.
Mais ton problème c'est que t'oses pas.
Je prends soin des miens, pareil que je retienne ma mère.
Essaye, prends ta chance.
Mais pour le reste, sans retenue. Sans retenue. Sans retenue. Sans retenue. Sans retenue.
C'était le morceau Sans retenue de Loud et on retrouve tout de suite Philippe Etchebest.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Ça va le canon Roussillon ? Bon, j'ai autant vous le dire, si vous restez assis, on va se faire chier. Je dis ça comme ça, je dis rien. C'est du rock'n'roll. Ok, vous êtes prêts ? Ah, je sais pas si vous êtes prêts. On va voir.
Ça, c'est un extrait d'un concert de Chef and the Gang, qui est donc votre groupe, Philippe, dans lequel vous jouez de la batterie.
C'est ça.
Vous reprenez effectivement, on en parlait un petit peu en antenne, beaucoup de classiques, de standards, de groupes, notamment du rock. comment c'est né ce side project, ce projet à côté, qui a l'air quand même, vous me disiez que vous étiez encore en répétition ce dimanche, ça reste important pour vous, d'où ça vient ça?
Vous savez comment c'est parti?
Comment?
Eh, si on faisait une répète.
Aussi simple que ça.
Exactement. Okay. Si on faisait une répète, on fait une répète avec, avec des copains, et j'aime bien le citer Thomas Payet qui était à l'initiative de cette idée, pour faire un concert à la fête de la musique, devant mon restaurant au 4ème mur, place à Bordeaux. Mais on voulait un bout de terrain, un bout d'herbe pour jouer comme ça, taper le bœuf. Sauf que la mairie nous dit est-ce que vous voulez jouer place de la comédie? Ah, j'ai dit, il y a le tramway, on fait comment? Oh, on va l'arrêter. Et puis on installe la scène, tout ça, puis on dit rien à personne, on communique même pas dessus. Puis on se retrouve à jouer la première fois devant 4000 personnes. Putain, Et puis on s'était dit, bah, tous les ans, on fait un rendez-vous et puis on fait la fête de la musique. Puis ça a pris comme ça, après il y a eu ODP, un festival, et puis il y a eu un moment magique, le Hellfest. Un truc incroyable, on fait le
Metal Corner, un
Hellfest.
Festival dédié notamment au métal, qui
métal,
est extrêmement important.
Truc, enfin bon, on s'est retrouvé de fil en aiguille à faire des trucs qu'on n'avait pas prévus, puis on s'est dit pourquoi pas. Et donc on fait ça avec beaucoup de sérieux. On travaille chacun de notre côté. Alors c'est vrai qu'on n'arrive pas à se voir tout le temps ensemble, mais on travaille chacun de notre côté sérieusement pour jouer des morceaux, des grands classiques du rock. C'est assez varié et surtout. On joue pour une association sur les pompiers solidaires, dont je suis parrain depuis 14 ans. Donc on se fait plaisir et on fait plaisir aussi aux autres, donc c'est très bien.
Et c'est quoi, vous, votre premier rapport avec la musique, peut-être même le rock? Ça vient d'où, ça?
La musique, en général, ça vient depuis mon enfance, parce que moi j'ai un père basque, j'ai une mère qui adore chanter l'opérette constamment, donc on a été bercé par la musique, par ces airs-là, par la chanson française aussi, beaucoup. On chantait dans la voiture, on chantait les repas de famille au Pays Basque, etc. Ça n'en finissait pas de chanter. Et puis voilà, j'aime la musique. La musique me transporte, la musique me ramène à des moments de ma vie aussi. J'ai des repères comme ça, musicaux, où je peux donner des dates précisément sur tel morceau. Me dire j'étais là, je faisais ça. Et voilà, et je continue à aimer la musique.
Et il y a eu une histoire d'amour avec le rock, précisément, justement avec...
J'ai découvert Elvis Presley. Quand j'étais gamin, et juste après Elvis Presley, ça a été les Beatles. Et je me suis trouvé là face à un groupe qui m'a porté. J'avais tous les albums, je connaissais toutes les chansons, je les connais toujours d'ailleurs. Et puis après, ça c'est parti. Après, sur des périodes un peu plus hard rock avec Iron Maiden, Black Sabbath, AC/DC, tout ça. Et puis pour découvrir plein d'univers musicaux différents. J'ai une bibliothèque qui est très large, en fait. Ça peut passer du hard rock à des choses très classiques, comme Eric Satie, dernièrement. J'aime beaucoup écouter, comme ça. C'est plus calme, les Pink Floyd. Enfin, c'est hyper varié.
Est-ce que vous cuisinez en musique? Au contraire, il faut le calme absolu?
Alors, à Maison Nouvelle, c'est vrai qu'on ne met pas la musique. C'est plutôt calme. J'aime mettre la musique quand je suis allé à la campagne et que je vais cuisiner pour des amis. J'aime bien mettre une petite playlist là, et cuisiner comme ça, et chanter. Parce que je chante, en plus j'adore chanter malheureusement. Grande âme de ma femme, parfois en voiture, je peux chanter 2 heures d'affilée sans m'arrêter.
Sans s'arrêter?
Ah ouais, je suis capable.
Donc vous chantez bien.
De faire même tous les instruments.
Ah oui,
c'est terrible.
Je répète, donc juste je précise, Maison Nouvelle, c'est votre restaurant.
Maison Nouvelle, oui, c'est le restaurant doublement étoilé au Chartron à Bordeaux.
Et justement, ce que vous disiez, qu'il n'y a pas de musique là-bas, est-ce que c'est important pour vous de garder justement un côté un peu plus solennel, peut-être, ou en tout cas classique, dans ce genre d'établissement?
Alors justement, j'allais y venir. Comme c'est. En fait, je reçois les gens un petit peu chez moi, il faut sonner à la porte, les gens rentrent, on les amène au bar, sauf que la playlist du bar, c'est que des Beatles.
Okay.
Ah, c'est que des Beatles, il n'y a que de ça. Et c'est un peu chez moi. Alors après, au restaurant, je ne mets pas des trucs trop ardus, parce que de toute façon, j'ai eu un nom négatif de Dominique. Donc, mais il y a des covers. Alors c'est une playlist que m'a fait Alex Jaffray. Je ne sais pas si vous connaissez Alex Jaffray. C'est le chroniqueur de Télématin qui fait la chronique de musique et qui joue dans mon groupe, donc qui est au clavier, qui est un super musicien, et qui m'a fait des playlists vraiment adaptées à ce genre de droit, mais qui peuvent un peu étonner, parce que c'est pas forcément très classique, justement. Très, mais en tout cas, c'est une musique qui me représente.
Philippe Etchebest est avec nous jusque 23h. Alors, Philippe, aujourd'hui, vous êtes évidemment, je dis, l'un des chefs les plus populaires du pays, doublement étoilé, meilleur ouvrier de France, restaurateur, musicien, star de la télévision. Aujourd'hui, quand on regarde votre parcours, comment vous voyez? Est-ce que d'abord, comme un cuisinier avant tout, comme un entrepreneur, comme une célébrité. J'imagine que vous ne voyez pas comme ça, mais est-ce que vous êtes d'abord un cuisinier?
D'abord cuisinier,
bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes aussi peut-être plus que ça, parce que vous êtes aussi chef d'entreprise, même de plusieurs entreprises.
Je fais ce métier depuis 40 ans maintenant. Depuis plus de 40 ans même, j'ai commencé à 16 ans. Même 14 ans, l'école hôtelière, ou 13 ans et demi,
c'est ça, 13 ans et demi. Vous rentrez à 14 ans au lycée hôtelier de Talence, c'est ça,
talent, c'est ouais. ça, 14 ans. Donc ça fait 45 ans. D'accord. Oui, 45 ans.
Moi, je ne dirais
45
pas votre âge.
Non, 45 moi, ans, je... 14 ans, 45 ans. Et donc, forcément, mon premier métier, c'est la cuisine, évidemment. Après, j'ai été porté par plein de choses, et par le sport notamment. C'est vrai, je voulais faire au départ sport-études dans le rugby. J'ai eu la chance de pouvoir jouer pendant plus de 15 ans, 16 ans au rugby. Après, j'ai fait de la boxe anglaise pendant moins de 15 ans aussi. Ouais. Donc, j'ai beaucoup pratiqué le sport parce que c'est quelque chose que j'aime faire et qui me porte aussi et qui me sert aussi au quotidien dans ma vie, dans le mental, dans la façon de manager aussi mes équipes. Vous parlez d'entrepreneur, je suis un très jeune entrepreneur parce que ça fait à peine 10 ans que je suis mon propre patron avec Dominique. Voilà, on a notre
Dominique est votre épouse. Voilà.
On a commencé, on était 3 il y a 10 ans et aujourd'hui vous disiez plus de 100, effectivement on est plus de 100, on est 150. Donc ça fait une grosse marge de progression et je trouve que bon, la chronologie est bien finalement. Je regrette pas de ne pas avoir fait ça avant. Je l'ai fait, je pense, au bon moment parce que le monde de l'entrepreneuriat est extrêmement difficile, c'est très très dur. Il faut beaucoup d'expérience malgré tout, et cette expérience je l'ai acquise au fil des années, et puis voilà.
Alors, vous êtes, je l'ai dit, meilleur ouvrier de France, je crois que c'est arrivé en 2000.
Oui, en 2000.
Qui est une distinction mythique. Mmh. Alors, pour les personnes qui sont un peu extérieures à ça, on ne se rend pas forcément compte, qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un comme vous, justement, pour un cuisinier comme vous, quand on connaît votre parcours, qu'est-ce que ça représente foncièrement?
Ben, le titre de meilleur ouvrier de France pour un cuisinier, c'est un peu ce qu'est la médaille d'or des Jeux Olympiques pour un sportif. C'est un peu pareil, c'est tous les 4 ans qu'il y a ce concours. Ouais. Et c'est un niveau d'excellence, de technicité, de savoir-faire aussi, de maîtrise. C'est un concours qu'on fait. Bon, moi, c'était pour relever ce défi-là aussi, parce que je sais que ça fait rêver plus d'un d'avoir ce col bleu blanc-rouge. Ouais. C'est une distinction qui est une espèce d'aboutissement, qu'on pourrait dire, pour un cuisinier, même si c'est pas une fin en soi non plus.
Ouais. Hein, il y a des gens qui ne l'ont pas et qui font...
Absolument, ça dépend de chacun. Mais moi, j'ai abordé comme un concours, comme une compétition, comme un défi.
Côté, ouais. J'imagine qu'il y a aussi votre côté compétiteur que vous avez, qu'on a l'impression de voir, en tout cas quand on vous voit à la télévision, et que c'est peut-être aussi ça qui a motivé chez vous, le fait de vouloir aller le chercher.
Pour voir si j'étais capable de le faire.
Ouais.
En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Est-ce que je suis capable de? Donc je le fais, et j'essaie d'aller au bout. C'est pour ça que on parle du sens de passion. Je suis pas un passionné, mais en tout cas, tout ce que je fais, je le fais à fond. À chaque fois que je me lance dans un truc, je lâche pas, je suis un pitbull, j'y vais. Je me donne les moyens d'y arriver, donc ça passe par du travail forcément, ouais. par beaucoup d'efforts, par beaucoup d'engagement, mais en tout cas, je le fais avec beaucoup de cœur et beaucoup d'engagement.
Alors vous êtes passionné de sport. Dans le sport, on peut dire, alors, pas tout le temps, mais souvent, qui est le ou la meilleure? Il y a un classement, il y a des performances, on donne une médaille, etc. Est-ce que c'est possible en cuisine? Ou est-ce que c'est un peu comme l'art, c'est subjectif? Moi, par exemple, dans la musique, c'est compliqué de dire qui est le meilleur ou le meilleur musicien. Est-ce que dans la cuisine, c'est pareil, en fait?
C'est très suggestif, hein, le goût. Et c'est ce qui fait justement la richesse de notre métier, c'est que vous ne faites pas l'unanimité. Personne ne fait l'unanimité. Le but, c'est de toucher un plus grand nombre, bien sûr, mais il faut de la variété, il faut de la différence, et c'est ce qui nous nourrit.
Donc oui, c'est notion parfois de concours, même si c'est un titre honorifique, mais vous en faites pas plus que ça, en fait.
C'est très personnel aussi. C'était histoire de voir si je pouvais aller au bout des choses et puis atteindre ce niveau-là. Et bon, moi, une fois qu'on l'a eu, on sait bien, hein, mais après, ça n'empêche pas qu'il fallait continuer et puis toujours travailler pour progresser et aller encore plus loin.
Comme un sportif, finalement.
C'est comme un sportif.
Toujours se remettre en cause.
Exactement pareil. Pour être au haut niveau, ça demande de l'engagement au quotidien et de la remise en question permanente.
Est-ce que vous voyez toujours, justement, comment dire, vous battre pour le haut niveau? Est-ce qu'il y a un moment où on n'est pas fatigué? Ça, on se dit, bon, là, j'ai assez donné. Alors, j'ai l'impression que vous êtes toujours animé par ça, en fait.
Pour l'instant, oui, tant que j'ai l'énergie pour le faire. Mais ce qui m'anime aujourd'hui le plus, en tout cas, c'est la transmission.
Oui,
c'est ce qu'on disait. Moi, c'est ça, maintenant, qui me motive. Bah, j'ai fait une grosse part du travail, en tout cas, en ce qui me concerne. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'il y a moins de gaz qu'il y a 20 ans. Même si on a encore, je répète.
Ouais,
mais quand même, voilà, c'est une autre façon d'aborder les choses, même s'il y a encore des projets. Il y a des projets entrepreneuriaux avec des équipes, avec des collaborateurs. J'ai la chance de travailler avec des jeunes et c'est vrai qu'ils vous poussent aussi parfois. Ils ont envie de choses, ils ont envie de nouveautés. Donc, vous dites, bah, allez, on y va, quoi. On est porté aussi par ça et je trouve que c'est hyper stimulant.
Bon, je pense qu'on écoute un morceau d'une chanteuse qui s'appelle Lola Young, avec un morceau qui s'appelle Walk All Over You, qui est un morceau qui est en playlist France Inter. On s'écoute ça et juste après, on continue à discuter avec vous, Philippe Etchebest. C'était Lola Young, donc avec le morceau Walk All Over You.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Nous sommes avec Philippe Etchebest jusqu'à 23h. On discutait un petit peu de la mécanique, de comment ces émissions elles sont fabriquées, justement. Mais j'aimerais discuter un petit peu de vous, de votre parcours, parce que votre père était chef cuisinier.
Oui.
Et la famille, donc, je crois, a beaucoup déménagé avant de s'installer à Bordeaux. Est-ce que vous avez l'impression même déjà d'avoir grandi un peu dans une brigade plutôt que dans une famille classique? Est-ce qu'il y avait déjà cette ambiance-là, quelque part, avec la maison?
Pas vraiment.
Non,
non,
okay,
pas
d'accord.
Du tout.
Okay.
Pas du tout. Après, mon père était beaucoup au travail. Hein,
ouais.
Il était, j'aime pas dire absent, parce que il travaillait pour nourrir sa famille aussi.
Mais vous le voyez peu à la maison.
Très peu à la maison. Mais non, il n'y avait pas cette notion de brigade qu'on pourrait le penser. Non, non. Après, on a été élevé avec des valeurs et des règles quand même, voilà, strictes. Mmh. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui aussi. Hein. C'est bien. C'est des choses normales, j'ai envie de dire, parfois, qui aujourd'hui peuvent paraître exceptionnelles, mais en tout cas, une éducation rigoureuse, mais bonne.
Vous avez l'impression que ce type d'éducation-là, justement, aujourd'hui, il est peut-être un peu plus mal vu, ou moins fréquent, en tout cas
Mal vu, c'est qu'est-ce qui est mal vu? C'est de dire bonjour, de dire merci
quand je vous remercie.
C'est d'être poli, d'être respectueux, d'être... je sais pas...
Je me pose la question sur peut-être j'imagine peut-être qu'il y a une question parfois, c'est quand on parle de rigueur ou même parfois d'autorité. Ouais. Il y a parfois des choses qui peuvent être un peu plus mal vues aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est de ça dont on se parle.
C'est mal vu aujourd'hui, on est d'accord. Vous ne pouvez pas faire un pet de travers sans que ça devienne une catastrophe, ça devienne un tsunami. Donc, non.
Est-ce que ça manque aux nouvelles générations, ça, selon vous,
ces valeurs-là? Complètement. Okay. Oh, mais ça manque beaucoup. vraiment.
Vous sentez que c'est un peu plus... comment dire, qui se permettent plus de choses que vous nous permettez à 20 ans, par exemple, ou à 15 ans.
Mais ça évolue, alors après tout évolue, il ne faut pas rester non plus sur le passé, les choses évoluent aussi, il faut grandir avec ça. Mais je pense qu'il y a... Il y a un cadre, il y a des règles qu'il faut toujours respecter. Et je vous dis un truc, je pense que les gens en ont besoin. Moi, je rencontre plein de gens. Il se trouve que je touche énormément de populations. Ouais. Ça peut être des très jeunes, des ados, des plus vieux. Tout,
et de classes sociales différentes.
Et de classes sociales très différentes. Ouais. Et j'en rencontre vraiment beaucoup. Et je peux vous assurer que moi, j'ai déjà rencontré des gens qui n'ont rien à voir avec ce que je fais moi. Mais quand ils viennent me voir, ils me disent « Monsieur, du chef, ils sont polis, et moi une fois on m'a dit, putain c'est incroyable le rapport que peuvent avoir les gens avec toi, parce qu'ils le comprennent. Et les gens, je trouve que, il y a peut-être des mauvais gens, mais il n'y a pas que des mauvais gens, mais il y a des gens qui ont besoin de cadre. Et c'est vachement important. Et quand on peut leur apporter ça, je trouve que c'est une bonne mission ça aussi, pour moi.
Je crois que vous arrivez en 1988 à Paris.
Oui.
Pour travailler justement dans de grandes maisons à l'époque. Quel choc c'était à l'époque pour vous justement d'intégrer en tout cas ces cuisines-là?
C'était de partir déjà du Chipiron, où on était trois en cuisine. Ouais.
Et le Chipiron, c'est le restaurant familial.
C'était un restaurant familial. J'ai travaillé donc dans cet établissement avec mes parents juste après l'école pendant 2 ans et demi pratiquement. Et puis je suis parti, c'était le Méridien Porte-Maillot. c'était un des plus grands hôtels d'Europe avec 1000 chambres. Et je me suis perdu dans le vestiaire.
C'est tellement immense.
Déjà le vestiaire, c'était un labyrinthe de placards, et je me suis paumé, j'ai mis 10 minutes avant de ressortir du truc.
Ouais.
Mais c'était un choc forcément, et c'était un choc nécessaire pour me faire évoluer, pour me faire grandir.
Est-ce qu'il faut passer par Paris, dans ce milieu-là, ou pas nécessairement?
Pas spécialement.
Il y a beaucoup de milieux, notamment artistiques, où on a l'impression que Paris est vraiment, tout est centralisé, si on veut réussir, il faut passer par Paris. Est-ce que la cuisine, c'est le cas?
Je ne crois pas, crois pas. C'est vrai qu'à Paris, ce qui est bien à Paris, c'est que il y a beaucoup de restaurants qui sont de très haut niveau, qui sont dans la même ville.
Oui.
Donc c'est facile, si dans notre métier, c'est vrai qu'on aime bien bouger, on reste 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on aime bien bouger justement pour acquérir une expérience.
Apprendre de nouvelles choses.
Et pour grandir. Donc c'est plus facile à Paris qu'en province, mais je pense que le passage à Paris n'est pas obligatoire pour réussir dans la cuisine.
Alors, vous disiez dans une interview que avoir un restaurant gastronomique, c'est pas rentable en fait.
Pas du tout.
Mais alors pourquoi est-ce que les grands chefs, en tout cas beaucoup de grands chefs, continuent à en avoir? Est-ce que c'est vraiment une histoire d'image, d'ego peut-être?
Je pense que c'est pour l'image aussi. Alors moi j'ai fait l'inverse quand je suis devenu patron, entrepreneur. J'ai commencé par une brasserie, parce que je savais très bien que partir dans du très haut niveau, chercher à avoir 1-2 étoiles, bon, ça a un coût aussi, et c'est vrai que financièrement, c'est pas là où on gagne de l'argent. Quand vous êtes 22 22 collaborateurs pour 28 couverts. Oui, le rapport, et on est un métier de service, c'est vrai que la masse salariale dans notre métier est très élevée par rapport à tous les autres métiers qui puissent exister. Donc, forcément, c'est pas là où on va chercher à gagner bien sa vie. Mais en tout cas, c'était une volonté pour moi de le faire, parce que justement, ça fait partie de l'image du groupe, d'avoir un établissement de haute volée, de haut niveau, pour pouvoir asseoir aussi le reste.
Mais comment, voilà. Du coup, on réussit en tout cas à avoir un modèle économique viable dans ce... Parce qu'on dit toujours que la restauration, c'est extrêmement compliqué. Alors, tout le monde le sait,
c'est
un milieu compliqué.
Et pourtant, il y en a plein qui vont, en plus.
Exactement.
C'est pour ça que je vais les voir, donc je m'en reviens. D'ailleurs, c'est un drame, ça aussi. C'est vrai que vous pourriez, demain, ouvrir votre restaurant.
Si je le voulais,
après deux jours et demi de formation, vous avez un permis d'exploitation et vous pouvez ouvrir votre restaurant, ce qui est une aberration pour moi.
Oui.
D'ailleurs, ça devrait être mieux contrôlé et mieux régulé. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. C'était quoi,
non, comment on réussit du coup à vivre de cette activité?
Non, mais après, là aussi, c'est pareil. On peut en vivre, bien sûr, mais ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de suivi, une fois de plus, c'est beaucoup d'implication et beaucoup de travail. Il faut tout suivre. Nous, on fait des points tous les mois sur l'état, en tout cas, sur les chiffres. Et les chiffres, ça passe. Les gens parfois peuvent s'imaginer qu'il y a beaucoup d'argent parce qu'on parle du chiffre d'affaires. Mais dans ce chiffre d'affaires, il faut enlever la partie coût matière, la partie salariale, la partie frais fixes, et en fait, à la fin, il reste 2%. C'est pas énorme. Vous allez comprendre tout de suite. On a fait le calcul dans un restaurant où je travaillais avant. Un client qui s'assoit, d'accord, pose ses fesses sur la chaise, c'est 47 euros. Il n'y a rien fait. Hein.
Juste ça.
Hop, 47 euros. Boum. Et on n'a pas compté le reste. Ni le coût matière, ni le service, ni rien du tout. C'est les frais fixes. Les frais fixes, c'est 47 balles. Boum, tu t'assois. Donc, il faut calculer tout ça. Donc, forcément, parfois, on pourrait dire les prix sont chers, machin. Mais il s'est adapté au service et à la prestation que vous fournissez. Toujours. Au produit que vous travaillez, mais au service. Et tout est lié. Alors, on pourrait dire, c'est cher. Mais qu'est-ce qui est cher? Vous avez mangé un menu à 12 balles, ça peut être très cher.
Selon ce qu'on a dans la fête.
Exactement, ouais. Ça peut être aussi très cher. Après, c'est l'expérience que vous faites vivre. Vous pouvez payer 300 balles par tête de pipe, c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas aller se payer le prix d'un restaurant comme ça. Mais c'est une expérience que vous proposez aussi aux gens qui doit être exceptionnelle, c'est vrai.
Philippe Etchebest est avec nous jusqu'à 23h. Philippe, on a parlé de quelques-unes de vos passions, on a parlé de la musique, on a rapidement évoqué le sport, mais je pense que c'est aussi quelque chose d'important parce que on l'a compris, enfin moi, en discutant avec vous, je le comprends un peu, c'est que j'ai l'impression que vous regardez un peu votre carrière, vous l'envisagez finalement comme celle d'un sportif, c'est-à-dire tout le temps se remettre en cause, travailler, aller à la salle en fait, quelque part. Et je crois que vous avez aussi pratiqué le rugby, la boxe. C'est quoi votre rapport aujourd'hui avec la boxe? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore important pour vous, que vous pratiquez? Je crois que vous avez fait 6 combats d'ailleurs. Six victoires, je le précise.
Alors c'était une période, j'étais à Toulouse à l'époque. Et je demandais au chef avant le service de pouvoir aller boxer. Alors c'était compliqué, j'étais seconde cuisine. Puis un jour, le chef il m'a dit bon, Philippe, tu choisis, tu veux faire du sport ou tu veux faire la cuisine? T'es un bon cuisinier, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je dis chef, moi je fais le boxe, c'est parce que j'ai envie de faire ça, mais bien sûr que c'est la cuisine qui va me porter. Donc j'ai arrêté en tout cas de faire des combats, mais j'ai continué quand même à aller à la salle et à boxer. Mais c'est vrai que quand on fait des combats, c'est un investissement qui est tout autre. Mais je suis content de l'avoir fait parce que c'est une expérience incroyable. Monter sur un ring et de faire du pas de taper dans un sac, y aller pour de vrai, franchement, ça...
Qu'est-ce que ça vous a appris?
Le mental, ça m'a appris, moi, à dépasser mes limites. Parce que monter sur un ring, il faut y aller, quoi. J'avais toujours peur, la peur.
Bien sûr.
Il y a toujours la peur qui prend les tripes. Il faut aller au-delà de cette peur pour qu'elle se transforme en énergie. Mais en fait, c'est aussi ça, la vie. La vie de tous les jours, c'est de pouvoir affronter des difficultés et d'aller au-delà de ces difficultés, trouver des solutions et puis se battre. La vie est un combat de tous les jours. Tous les jours. Voilà, à un certain niveau, mais quand même, il faut y aller, quoi. Il faut être fort mentalement.
Est-ce que ça vous arrive encore d'avoir peur en cuisine?
Peur en cuisine, J'ai eu ce sentiment, surtout quand j'ai commencé comme chef, c'est vrai, ou quand je changeais d'établissement, que je reprenais un poste. J'ai eu très peur quand j'ai ouvert la brasserie. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours. Ça ne m'était jamais arrivé. Ma première affaire, mais j'ai eu une trouille, mais comme jamais.
Peur que ça marche pas,
ouais,
peur que ça...
Mais complètement, peur que ça marche pas, peur qu'il y ait pas de clients, peur que... Waouh! J'ai jamais connu ça.
Ouais.
Bon, maintenant, avec le recul, on vient d'ouvrir notre dernier restaurant, là, le classique, il y a 3 mois. Je l'ai appréhendé de manière très différente.
Et justement, cet établissement, le classique, c'est justement, je crois, hein, Marie-Thé, si je me trompe, un établissement qui veut mettre à l'honneur la cuisine traditionnelle française, qui arrive aussi à une époque où j'ai le sentiment, et pareil, je parle sous votre contrôle, que beaucoup aussi de chefs veulent parfois réinventer des choses, bousculer un peu, renverser la table.
Oui.
Est-ce que c'est aussi une volonté, je pense que les deux peuvent coexister, mais
bien sûr,
remettre aussi justement
bien
des choses très classiques au centre du sujet.
Ouais, parce que il y a une vraie demande. En tout cas, j'aime ça. J'ai été formé à travers cette cuisine-là. Il y a une vraie demande de la part des gens de retrouver des choses un peu réconfortantes, rassurantes, lisibles aussi. Une fois de plus, ça fait partie du socle de notre cuisine. Donc, c'est bien de les remettre au goût du jour sans les modifier, je répète, sans les transformer ou sans les revisiter, surtout pas. Mais justement, de respecter les recettes telles qu'elles étaient faites et de les faire redécouvrir ou découvrir aux gens, et même à des jeunes. Je vois, j'ai un jeune public qui vient manger, qui découvre un lièvre à la royale, qui découvre des plats comme ça, le canard à l'orange, je trouve que c'est fabuleux
de
faire ça.
Pour vous, le plat un peu signature qu'on peut retrouver au classique, le plat vraiment traditionnel comme ça, que vous aimez un peu plus que les autres, est-ce qu'il y en a un comme ça?
Alors, traditionnellement, on connaissait le bœuf au poivre, flambé au sel.
Oui.
Flambé en sel. Bon, on fait un onglet de veau. Comme ça, sauce poivre, flambée au sel, préparée en sel. Et c'est extraordinaire. Et ça fait partie des gros standards que les gens aiment bien, parce qu'il y a le côté spectaculaire du flambage et la bonne sauce au poivre. Parce que, bien sûr, qu'on aime cette cuisine avec les sauces. Et pour moi, les sauces, c'est très important. On vient lécher avec le pain, là, tac, comme ça, le fond de l'assiette, et puis on mange. Et ça, c'est génial. Tous ces plats en sauce qui nous régalent.
Vous parlez de flambage, c'est aussi une vision aussi de la cuisine, de montrer ça, de montrer les chef, etc. Est-ce que c'est... Il y a un côté spectaculaire
ouais,
aussi.
Oui, surtout la salle. Je reviens au métier de la salle qui est un peu... Alors c'est vrai qu'on a la chance, nous, cuisiniers, d'être mis en avant à travers toutes ces émissions comme Top Chef, comme tout ce qu'on peut voir. Mais le métier de la salle est souvent en retrait, alors que le rôle de la salle est extrêmement important pour valoriser justement les plats des cuisiniers. Et aujourd'hui, de refaire, comme je le fais au classique, remettre au centre du restaurant le service, avec ses découpes, avec ses flambages, avec ce travail au chariots, les chariots de dessert, tout ça, les crêpes Suzette, c'est un vrai spectacle, et je peux vous assurer que les gens, tous les gens qui viennent, à chaque fois qu'il y a un truc, paf, ils filment, ils regardent, flambage, des coupes, les crêpes Suzette, les machins, le chariot de dessert qui arrive, et c'est faire passer un moment aux gens, très particulier, comme s'ils étaient au spectacle ou au théâtre, et il y avait une pièce qui se jouait devant eux. Et ça, c'est le rôle des serveurs, justement. Et c'est bien de le remettre en avant, parce que il y a beaucoup de gestes qui ont été oubliés.
Bon, je pense qu'on écoute un morceau d'un groupe, je crois que... Voilà. Pourquoi c'est...
Ah, Queen.
Il y a la gestuelle. Queen, évidemment. Alors, le titre,
sûr.
Pardon pour mon accent. Another One Bites the Dust. Pardon, c'est moqué de moi toute la semaine à chaque fois que je voulais prononcer le titre de ce morceau. C'est un morceau que j'adore. De Queen. On s'écoute ça, ce morceau-là. On se retrouve juste après avec Philippe Etchebest. Let's go.
Another one bites the dust.
Quel classique de Queen.
Grand classique.
Un morceau qu'on a mis pour vous, Philippe.
Ah mais c'est gentil.
Voilà.
Ça me fait plaisir.
Car vous êtes avec nous jusque 23h.
Mehdi Maizi sur France Inter.
C'est l'heure des recommandations. Philippe, je le rappelle, vous êtes là pour la nouvelle saison de Top Chef.
Oui.
Qui donc, diffusée aujourd'hui. oui, aussi. Et alors, c'est l'heure des recommandations. Et vous m'avez envoyé une recommandation et ça m'a fait plaisir. Car c'est une série. C'est une série dont on a déjà parlé rapidement dans cette émission. Elle s'appelle Mobland.
Je suis Conrad Harrigan. Je suis un bon père de famille. Et si vous vous en prenez à ma famille, alors faites vos prières. Il y aura toujours un sale petit rat qui voudra me prendre ce qui m'appartient.
On est où ici, chez les talibans ?
Non. Mais quand Conrad va s'énerver, quand il s'énervera, pour de bon, tu prieras pour qu'il le soit.
C'est un extrait de la bande-annonce, donc de la première saison. Il n'y a qu'une saison pour le moment, qui est une série anglaise avec notamment Pierce Brosnan, Tom Hardy et Hélène Mirren, donc casting exceptionnel. Alors, je ne vais pas spoiler parce que moi j'ai eu la chance de voir la saison, je crois que vous ne l'avez pas encore fini.
Non, j'en suis au 7e épisode.
Mais qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette série, dans cette saison en tout cas ?
Non, mais alors, j'aime beaucoup Tom Hardy. C'est un acteur incroyable.
Extraordinaire.
Et puis c'est l'histoire de ses familles. Enfin, à la fois, ça fait peur. Mais c'est fascinant.
Donc c'est sur la mafia, c'est une histoire de gang londonien.
Et alors c'est marrant parce que ça me fascine ces trucs-là. Je suis absolument, pas dire en admiration, mais je trouve ça hallucinant tout ce qui peut se passer. Et puis ça existe en vrai. Pense.
J'avais toujours aimé ces histoires d'un peu de mafieux ou de. Ouais. C'est des films qui vous ont un peu intéressé parce qu'il y a beaucoup des sujets qui ont été adressés par le cinéma.
Il y en a plein. Ouais. Je sais pas si je dois le dire, mais j'ai regardé les trucs sur les narcos, Pablo Escobar, ouais. Sur El Chapo. Je trouve ça fascinant, ouais. La vie de ces mecs, mais il faut faire preuve, je pense, d'une intelligence suprême quand même pour passer dans les mailles de tout, pour être les mecs ils sont tout le temps sur le qui-vive, quoi. Ils jouent leur vie tous les jours. Enfin,
ils sont jamais en paix.
Et puis, en fait, c'est les réflexions qu'ils ont, les manières de faire, c'est des trucs de dingue. C'est incroyable.
Est-ce que ça fait peur. On parlait du fait que vous étiez un homme de télé, de divertissement. Est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui vous tente?
Non, ça me tente pas, non, spécialement. Okay. On en a déjà parlé, mais après, à un moment donné, il faut rester à sa place aussi.
Je sais pas, ça aurait pu être une envie, vous jouez de la musique.
Non, c'est pas une envie, pas du tout. Non, ça n'a jamais eu une envie. Après, vous savez, il ne faut jamais dire jamais quand c'est comme ça. Il peut tout se passer. Mais en tout cas, ça n'a jamais été une envie de ma part de faire ça.
Ce qui montre aussi que ce que vous recherchiez en allant à la télévision, ce n'est pas la notoriété, en fait. C'est arrivé chez vous, mais c'est pas un paramètre. Ouais. Comment ça, d'ailleurs, comment ça arrive quand Cauchemar en cuisine arrive en 2011? Ça se passe comment?
Ben, ce coup de téléphone, des casteuses qui appellent. Tiens, on a un nouveau programme, on a rien, mec, que ce soit vous. Alors, moi, pourquoi vous me connaissez? Je vous connais pas. Enfin, on parle de quoi? Puis je savais pas trop. Donc, c'est vrai que la démarche m'avait pas trop plu, donc j'avais pas donné suite. et puis ils ont insisté. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et je regrette pas d'ailleurs. Hein, c'est une bonne chose. Et puis surtout sur le fond, quand j'ai étudié le truc, bon, c'était d'aider des gens, donc c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Mais c'est pareil. Ça, il y a des questionnements quand même. Faire la télé, ouais, c'est voilà. Quand on connaît pas le milieu, on se pose toujours des questions.
Bien sûr.
Bah, à partir du moment après coup où les règles sont bien définies, bah, finalement c'est pas si compliqué que ça. Mais une fois de plus, parce qu'on m'a souvent posé la question, mais comment tu fais, comment faut faire? Bah, je dis, tu fais rien, tu t'es
oui.
toi-même.
C'est qu'en fait vous la c'est jouez tout. Comme ça.
Ouais.
Vous jouez pas un autre rôle.
Non.
Vous jouez pas le rôle d'un animateur.
Absolument pas.
Ouais.
Mais je ne suis pas un animateur.
Ouais.
J'ai du mal quand on me dit animateur télé. Je ne suis pas animateur télé. Je suis plus un expert dans un domaine et je passe à la télé.
Mais sur Cauchemar en cuisine, vous le faites un peu. Par exemple, vous animez.
Mais j'anime. Je suis un expert.
Caméra.
Je suis un cuisinier. Je suis un professionnel. Et c'est là où même si je pense qu'ils ont été malins, ils ont fait dans plein de domaines. Ils font appel à des experts pour aider des gens, pour trouver des solutions. Voilà, moi je suis cuisinier, j'interviens dans un milieu qui est le mien.
Et vous prenez toujours autant de plaisir à le faire, j'ai l'impression, parce que donc, ça sera encore le cas dans Top Chef cette saison. Philippe, c'est l'heure de la question qui tue. Vous n'allez pas avoir peur de ça quand même.
Non.
C'est pas ça qui va vous faire peur. J'ai une question. Est-ce que la cuisine française est vraiment la meilleure du monde? Vous qui voyagez, vous qui avez une émission en chef au bout du monde, est-ce qu'on est vraiment les meilleurs?
J'ai envie de dire que la cuisine française est une cuisine de référence dans le monde entier.
Ça, vous le sentez quand vous voyagez?
Complètement. Complètement. Et puis, il faut le dire aussi, beaucoup de chefs à l'international se sont formés en France. Ensuite, on fait évoluer la cuisine à travers leur pays, avec les produits aussi qu'ils avaient. Donc, il y a énormément de belles choses à travers le monde. C'est sûr qu'il ne faut pas aujourd'hui considérer qu'on est les meilleurs du monde. Non. Mais en tout cas...
On est dans la discussion.
On est dans la discussion, non? Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la diversité qui fait notre richesse dans le métier à travers les différents produits qu'on peut trouver à travers le monde, à travers les techniques, à travers les goûts aussi, parce que les goûts ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai, quand je suis un chef au bout du monde, je m'en rencontre. J'ai goûté des trucs, c'est juste insupportable pour les gens
là-bas, c'est
du pays. C'est juste normal.
Ouais.
Vous voyez, il y a une éducation du palais qui est propre à chaque pays et à chaque culture. Donc voilà, moi je suis curieux de ça, donc ça me va. Mais en tout cas, bon, dire qu'on est meilleur du monde, il faut faire attention. Voilà.
C'est une croyance, c'est quelque chose qui se dit sur le fait que nous, la France, on est effectivement un pays, et ça je pense c'est indéniable,
mais
une gastronomie extrêmement riche.
Oui, je pense qu'on a un socle et une base qui est historique, qui est très forte, plus que dans certains pays.
Oui.
Bien sûr.
Et surtout une richesse. Moi, ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas un plat français. Il y en a énormément.
On a une richesse. On a la chance d'être dans un pays qui nous propose des terroirs, qui nous propose des produits exceptionnels. Grâce à qui? Grâce à nos producteurs, grâce à nos agriculteurs. Et il faut qu'on les préserve, ces gens-là. Parce que le jour où on n'aura plus ces produits-là, moi déjà, je ne pourrais plus m'exprimer. Ce serait bien malheureux. Et qu'ils font partie de notre ADN, ces gens-là. Donc c'est vrai que j'ai souvent une pensée pour eux, avec ce qui se passe aujourd'hui, ils sont en grande difficulté, on les aide pas beaucoup, et c'est à nous justement, consommateurs, le moyen de les aider, c'est justement d'acheter français, d'acheter leurs produits.
Philippe Etchebest, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission aujourd'hui, vraiment, merci beaucoup,
merci
d'avoir été présent. On rappelle donc que vous êtes à l'affiche de la nouvelle saison de Top Chef, qui est disponible donc sur M6+, tous les mercredis. D'ailleurs, le premier épisode c'était aujourd'hui,
c'est ça,
en même temps,
c'est ça.
Voilà, donc merci en tout cas d'être venu nous voir et nous parler de cette nouvelle saison, et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, préparée par Alex Alacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Jérôme Ragano et Loïs Moreau. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous retrouverons pour son film Les Cadors, Jérémy Ferrari.